MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Je vous souhaite un très bon vendredi. Aujourd'hui, nous vous encourageons à ne pas désespérer pour le salut de ceux que vous aimez, ceux pour qui vous intercédez depuis des mois, peut-être même des années. Aujourd'hui, nous voulons vous encourager, vous fortifier avec Nadine et Aurélie. Bonjour mesdames.
Hello.
Bonjour
Evelyne.
Bonjour Aurélie.
Alors, on est vendredi. Et on a un très beau témoignage qui m'a personnellement beaucoup touchée. C'est okay. Noël Duval aujourd'hui qui nous raconte son parcours. Et il est vraiment encourageant parce que je trouve quand on entend ce genre de témoignage, ça donne foi pour le salut de certaines personnes qui ont l'air tellement loin du Seigneur. Donc vous découvrirez son histoire tout à l'heure. Il est passé par la prison, addiction très forte à la drogue. Et vous verrez comment le Seigneur est venu le chercher exactement là où il était. Et pour l'instant, on va commencer cette émission, comme j'ai dit, on va encourager tous ceux qui intercèdent, qui sont en attente du salut de ceux qu'ils aiment. On commence cette émission avec la pensée du jour.
Je vais commencer par un verset biblique qu'on cite généralement, qu'on retrouve dans Genèse, qui dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» En effet, lorsqu'on entend ce verset biblique, on comprend que tout est possible. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous êtes en train de prier pour les membres de votre famille, c'est important que vous dites cette parole de la parole, si je peux dire ça comme ça. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» C'est souvent long, difficile, même désagréable, lorsque on veut évangéliser, entre guillemets, les gens de sa propre maison, les gens de sa famille. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager vraiment à le faire d'une certaine manière. Je vous encourage à ce que ce soit plus pratique dans votre façon de fonctionner. Donc, si vous êtes en train de prier pour les membres de votre famille, quand vous priez, je vous encourage vraiment à être dans la précision. Parfois, vous avez déjà beaucoup parlé, ça ne s'est pas forcément passé comme vous l'entendiez. Tu es venu avec ton zèle, ta foi, pour parler, je ne sais pas, à tes parents, pour parler à tes frères et sœurs. Peut-être que tu as vécu du rejet, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas fonctionné. Mais il ne faut pas se décourager, il n'y a rien qui est impossible. Dieu fait encore de belles choses. Il y a des pôles qui sont là. Peut-être aujourd'hui qui ne sont pas encore transformés, des saules de tasse qui vont devenir Paul dans votre famille, dans votre maison. Mais pour cela, il faut continuer à être persévérant aussi bien dans votre évangélisation, mais il faut commencer par la prière. Et dans la prière, comme je disais, je vous encourage à être précis. Précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment regarder ces personnes avec des yeux compréhensifs, si je peux dire ça comme ça. Il faut réaliser en fait que peut-être qu'elles ne savent vraiment pas ce qu'elles font. Comme Jésus pouvait leur dire, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il faut prier contre des raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu dans la vie de cette personne. Je prends un exemple simple. Seigneur, je veux prier pour tel membre de ma famille de façon spécifique et je prie vraiment contre ce raisonnement qui se lève dans sa vie. Je prie contre les mensonges qu'il a acceptés. Vous pouvez demander à Dieu de vous révéler c'est quoi ce mensonge-là, pour s'y prier pour que Dieu ouvre le cœur de cette personne. On peut prier pour que sa vie soit transformée et même prier pour demander la sagesse pour pouvoir adresser certaines choses dans la vie de certaines personnes. Je le dis parce que c'est très important. Quelquefois, on a voulu voir le salut des membres de notre famille, mais le feu, le zèle et parfois le manque de sagesse peut conduire plus au jugement qu'à autre chose, en fait. Même si le cœur est bon, l'intention, elle est bonne, parfois dans la façon de parler, les gens peuvent le percevoir comme du jugement. Donc aujourd'hui, on dit de ne pas désespérer, mais ça passe par ces temps de prière où de façon précise, tu vas dire, Seigneur, montre-moi ce qui bloque pour mon frère, pour ma sœur, pour mon père, pour ma mère. Je veux le savoir, vous attaquez cette chose-là et que Dieu vous donne une sagesse vraiment pour pouvoir agresser ça dans la vie de cette personne. Et si ça se trouve, ça ne va peut-être pas passer par vous. Ce n'est pas grave. Prier, c'est juste vraiment donner l'opportunité à Dieu d'agir d'une façon ou d'une autre. Une autre chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est vraiment de manifester aussi l'amour, qu'on parle du salut de ses proches, on ne peut ne pas parler d'amour. Il ne faut pas forcer les gens à accepter l'évangile, en fait. Il faut manifester l'amour et éviter d'être ce vilain petit canard, la personne qu'on sait que, ben oui, lui, il est toujours en train de nous critiquer, lui, il nous prend vraiment pour des perdus, pour des païens. Évitez d'être cette personne-là. Mais lorsqu'on vous voit, qu'on voit vraiment quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est soucieux, quelqu'un qui manifeste ce Christ dont il parle, en fait, chaque jour, qu'on voit ces choses-là. Et aussi, pour finir, je vous encourage à vous attendre à Dieu. Persévérer, parce que quelquefois, les personnes pour qui vont vous prier vont manifester même le pire, des choses que vous n'avez pas du tout envie de voir. Mais il faut continuer, il faut persévérer en sachant que dans la prière, il y a vraiment un travail spirituel que vous êtes en train de faire dans la vie de cette personne. Et enfin, il faut être prêt. Il faut être prêt. Peut-être que quand le cœur de cette personne va s'ouvrir, il va falloir que vous soyez prêt justement à accompagner cette personne dans la direction, le chemin que le Seigneur aura prévu pour elle.
Mmh. Amen. Amen. On a notre rôle à jouer, mais Dieu a le sien. Et des fois, on veut jouer le rôle de Dieu dans le salut des personnes qui nous entourent. En essayant nous-mêmes de convaincre leur cœur et leur faire ressentir qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de se repentir. Mm-hmm. Et en fait, ça va les condamner. Ça va absolument pas les amener à la repentance. Et on a vraiment un rôle à jouer. Et aujourd'hui, on veut simplement vous encourager à savoir qu'il n'y a pas de péché trop grand que le Seigneur ne puisse pas pardonner. Il n'y a pas de trou trop profond où sont plongés ceux que vous aimez, que le Seigneur ne puisse pas aller rechercher. Mmh. Et en fait, l'amour de Dieu n'a pas de limite pour ces personnes-là. Et oui, les conseils d'Aurélie sont excellents parce que c'est ça notre part, en fait. Mmh. On ne peut pas faire plus que ça. On aimerait pouvoir faire plus, mais on ne peut pas. Et Jésus a sa fonction. Notre verset du jour, c'est Luc 19, 10. Et il est écrit que, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mmh. Il n'est pas venu, il y a un autre verset dans Luc au chapitre 5 où il dit qu'il est venu pour ceux qui étaient perdus, que ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Mmh. Et Jésus, en fait, nous dit que c'est pour ces gens-là, ces gens égarés, c'est pour les pécheurs qu'il est venu. Il a ce cœur pour eux. Et encore une fois, notre rôle va être d'aimer, de prier pour eux, et d'être toujours présent, d'avoir un témoignage qui va refléter l'amour de Dieu. Mais le reste ne nous appartient pas.
Ouais. Mm-hmm. Et j'aime les conseils qu'Aurélie a donnés, parce que c'est vrai, c'est des conseils qu'on peut penser, mais sur le coup, parce qu'on parle de désespoir, ça veut dire qu'il y a déjà eu quelque chose qui a été fait, mais la durée fait que ça devient plus difficile, ou même le comportement des gens. Mm-hmm. Des fois, tu es là, tu pries pour le salut de quelqu'un que tu aimes, donc ça veut dire que c'est peut-être un membre de ta famille, un conjoint, un enfant, un parent, et tu vois que les choses ne changent pas. Tu peux être tenté d'abandonner et tu peux être tenté même de prier juste « Seigneur, sauve-le, sauve-le ». Mm-hmm. Mais elle a parlé de l'importance de la précision et je crois qu'il n'y a pas de révélation sans précision. Donc ça veut dire que Donc ça veut dire que si je veux avoir de prier avec précision, il faut que j'ai une révélation. Mm-hmm. Seigneur, elle est dans quelle situation en ce moment? Et peut-être le Seigneur va te diriger dans un couloir de prière que tu n'avais pas pensé. Mm-hmm. Combien de fois on a entendu des enfants qui vont dire ben, « Voilà, c'est le jour où je voulais aller au club, à la discothèque, voilà, à cette fête, que j'arrive devant la porte. » Et j'ai entendu récemment une histoire d'un groupe de jeunes qui vont comme ça dans une boîte et alors qu'ils vont aller faire la fête, ben le gardien voilà, le devant, il laisse passer tout le monde et il dit « Toi, tu ne peux pas passer ». Il dit, le jeune dit « Oui, j'ai 18 ans, j'ai ma carte, voilà, j'ai le droit de rentrer dans le club ». Et puis il dit « Non, pas toi, il y a quelque chose de différent sur toi. Est-ce que tu es chrétien ?» Et là, le jeune, il se défend « Mais non, moi, je ne suis pas chrétien, c'est mes parents, ce n'est pas moi ». Il dit « Toi, tu ne passes pas ». Et tu te rends compte, c'était étonnant. Et les jeunes se sont frustrés, ils sont partis. Mais je me dis, il y avait des parents qui priaient derrière. Et des fois, tu peux prier dans le vide. Où tu peux prier avec précision. Seigneur, en cette saison, je prie pour les fréquentations. Je prie pour que des fréquentations qui rencontrent des gens qui vont le ramener à toi et non des gens qui vont l'amener encore dans pire. Et donc, des fois, c'est prier comme ça et c'est se garder aussi. Aurélie a parlé de l'amour et ça, c'est tellement important. On voit le cœur de Jésus alors qu'il est sur la croix. Il prie avec amour. Il dit, Père, pardonne-leur. On voit le cœur Étienne, qui va avoir la même prière. Mm-hmm. Et des fois, on est frustré par les gens que nous aimons, alors qu'on prie pour leur salut. Leur comportement aussi vient nous frustrer. Ouais. Et dans notre chair, on peut être frustré. Mais l'amour va nous demander des fois pardonner. Et des fois, l'ennemi veut nous, nous, nous décourager, mm-hmm. va peut-être même susciter des situations qui vont nous frustrer. Et là, il faut se rappeler. Ça prend des émissions comme celle-ci mm-hmm. qui nous rappellent que ah, c'est vrai. Je dois descendre, je dois mettre de l'eau dans mon vin et je dois continuer à prier et rester dans l'amour par rapport à cette personne.
Ça. Et dans certains cas, des fois, on va nous-mêmes fermer la porte. C'est comme si on a... cette personne-là, il n'y a rien à faire. Elle est allée bien trop loin. Et on va nous-mêmes fermer la porte, on va nous-mêmes saper notre propre foi, refusant même parfois de même vouloir prier. Là, je parle peut-être plus d'un voisin, d'un collègue de travail, où on a nous-mêmes condamné cette personne et on ne donne même pas l'opportunité à l'Évangile de rentrer dans sa vie. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment qu'on évite de faire ouais. et qu'on laisse toujours l'opportunité à Dieu de venir se révéler à une personne.
C'est ça, en fait, il ne faut pas tomber dans la fatalité. La fatalité vient souvent du fait qu'on a vraiment essayé beaucoup de choses.
Oui.
Et on a souvent cogné un mur. Du coup, c'est comme, OK, laisse tomber et tout. Il y a le côté, j'abandonne la situation à Dieu. Mais il y a le côté, vraiment, la fatalité de, comme tu as dit, lui, franchement, je pense qu'il est perdu.
C'est un cas désespéré.
Et puis voilà. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. C'est dangereux, surtout que moi, j'ai déjà eu le cas dans ma famille. Il y avait une... j'avais... Comme je priais, tu vois, la personne se moquait de moi. Mmh. La personne se reconnaîtra. La personne se moquait de moi. Souvent, quand je priais, elle n'était pas encore née de nouveau. Mmh. Mais un jour comme ça, alors qu'elle était en train de se moquer de moi, j'ai ressenti dans mon cœur qu'elle va donner sa vie à Dieu avant la fin de l'année.
Mmh.
Et vers la fin de l'année, elle commençait à me poser des petites questions, tu vois. Mais moi, je comprenais ce qui se passait. Mmh. C'est comme... Elle venait pas dans le mot « j'ai donné ma vie à Christ », tu vois, mais poser des petites questions, tu vois que... Il y a quelque chose qui a changé et mettre un jugement sur les gens va fermer ton cœur par rapport à ça. Parce que moi, j'avais compris parce que j'avais eu un avertissement. Je savais qu'il y avait un travail qui était en train de se faire dans son cœur qui poussait cette personne-là. Et quelquefois, les gens à qui on a prêché l'Évangile, c'est ce qui va se passer. Ils ne vont pas venir te dire « Tu te rappelles, tu m'avais parlé de Jésus aujourd'hui ?» Non, ils vont venir peut-être « Oui, ben, tu m'avais dit un truc, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Ça veut dire quoi quand tu fais ça ? Là, il faut avoir le cœur ouvert parce qu'il n'y a pas meilleur moyen pour planter, pour semer encore une parole d'évangélisation dans la vie de ces personnes à ce moment-là. Mais si tu as déjà fermé la porte parce que tu as trop essayé, ben là, comme tu as dit, tu es en train de priver quelqu'un d'une grâce parce que toi, ton cœur est fermé finalement. C'est plus le cœur de la personne, c'est ton cœur qui devient fermé à ce moment-là.
Exactement, exact. Et je crois que le témoignage de Noël va être un encouragement vraiment pour un grand nombre d'entre vous qui priez pour le salut de ceux que vous aimez. Donc, je vous laisse le découvrir. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Alors aujourd'hui, mon invité n'est pas sur mon canapé bleu, mais il est à distance. Mais son histoire vaut vraiment la peine d'être entendue. Il s'agit de Noël Duval. Bonjour Noël.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Ça va très bien et vous ?
Ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir, non pas sur place, mais dans « C'est mon histoire ». Pour que tu nous partages ton histoire qui est quand même assez exceptionnelle, comme je le disais, une histoire qui aurait pu tellement mal finir, mais qui finit merveilleusement bien. Alors pour te présenter rapidement, toi tu es né, tu fais partie de la communauté des gens du voyage, et tu es né dans une famille qui n'était pas particulièrement croyante. Tu avais cependant un oncle qui était chrétien, et puis tu as eu une enfance quand même un peu difficile, on va dire, puisque dès l'âge de 6 ans, tu as été placé en internat, donc séparé de ta famille. Comment ça s'est passé ces années-là ?
Alors, on va dire qu'au début, c'était un peu... J'étais enfant, donc véritablement, je comprenais pas véritablement ce qui m'arrivait. J'ai évolué au fur et à mesure de ma vie en vivant avec des gens de ma communauté qui étaient aussi placés dans l'internat. Mais il y avait aussi d'autres personnes parce que c'était un internat qui était pour les forains et les bateliers. Et si vous voulez, les années ont passé. À partir de 10-12 ans, on va dire, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais pas trop élevé dans ma famille, j'étais plus élevé dans un internat que dans ma famille. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vivre mon éducation à travers les gens avec qui je vivais à l'internat, en fait. Il m'arrivait des fois de rester 15 jours, par exemple. De rester 15 jours dans l'internat et de ne pas voir mes parents pendant 15 jours.
C'est très long quand on est un enfant.
Oui, c'est très long. Oui, c'est très long parce que moi j'avais, enfin, aujourd'hui avec le recul, on se rend compte que dans mon éducation, j'aurais aimé avoir beaucoup plus mes parents près de moi.
Bien sûr, ce qui est complètement normal. Et tu vas rester à l'internat jusqu'à tes 16 ans. Et puis ensuite, une fois sorti de l'internat, pas beaucoup de repères, puisque justement, finalement, il n'y a pas eu vraiment d'éducation qui a été faite, en tout cas pas par tes parents. Et tu vas décider de partir en mission, comme tu l'appelles, hein, avec la communauté des gens du voyage. Donc c'est comme une église qui se déplace, c'est bien ça?
C'est ça, exactement. En fait, je suis dans la communauté des gens du voyage. Je vais dans une église évangélique dans un mouvement avec qui nous étions avant. Et en fait, on part sur le voyage avec des caravanes. Et à ce moment-là, je participe à une réunion. Et au bout d'une quinzaine de jours, je ressens vraiment une présence dans mon cœur qui me bénit, qui me fortifie en fait à ce moment-là. Et je reçois le baptême du Saint-Esprit en fait. Je reçois le don de parler en langue. Et si vous voulez, je vis quelque chose d'extraordinaire, mais je suis jeune. Et si vous voulez, j'avais déjà, dans notre communauté, on se responsabilise très tôt, surtout quand on vit, on va dire, des enfances assez difficiles. On essaie de partir, de fuir en fait le foyer. Mmh. Et je m'étais déjà mis en couple avec une personne un peu plus jeune que moi. Et je vivais, si vous voulez, en couple avec une fille, mais véritablement, je ne connaissais rien de ce que c'était de la responsabilité. J'étais immature et je connaissais pas la vie. Et donc, quand je suis rentré chez moi, si vous voulez, 15 jours après, je suis passé par les eaux du baptême, après mes 16 ans. Donc, je suis passé par les eaux du baptême. J'ai vécu donc l'expérience avec le Saint-Esprit, où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je suis rentré chez moi, après à Paris, au bout de 15 jours. Et si vous voulez, je suis retombé dans le foyer, dans mes parents où j'étais, avec qui j'étais, ou avec qui ça se passait bien, vraiment. Mais ensuite, j'ai continué à fréquenter des gens de ma ville, et j'étais très influençable.
C'était des mauvaises fréquentations, finalement, qui t'ont entraîné dans quel type de problème?
Alors, en fait, je faisais de la boxe. Je faisais beaucoup de boxe, j'étais boxeur pendant des années. Et ensuite, si vous voulez, parallèle, je faisais tout ce qui était petit vol, petit cambriolage, jusqu'au moment où je suis rentré un peu dans le banditisme. Les années ont passé, j'ai évolué dans un système où j'ai commencé à faire des braquages. Et je me suis fait interpeller en 2009 pour un vol avec arme. Et c'est là où tout a basculé dans ma vie.
C'est ça, tu es interpellé, tu te retrouves en garde à vue. Dans cette garde à vue, est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu te souviens de Dieu? Parce que tu l'avais quand même vraiment mis de côté pendant cette période. Comment ça se passe?
J'ai complètement mis Dieu de côté, c'est vrai. Pendant toute cette période, je ne pensais pas à Dieu, en fait. Je ne pensais pas à Dieu. Pourtant, il y avait des choses il y avait des choses de temps en temps qui me revenaient, où Dieu réapparaissait dans ma vie, si vous voulez, en me disant que je suis toujours là, en fait. Je suis toujours là, ne m'oublie pas, car je ne t'oublierai pas. Et à un moment donné, quand je suis arrivé dans cette garde à vue, où je fais 96 heures de garde à vue, c'est extrêmement long. Je suis interpellé, des gens de ma famille sont interpellés. Je rentre dans un système où j'emmène des gens avec moi, en fait. Mmh. Et ça devient grave. Et quand je me rends compte que ça devient très grave, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et c'est là, en fait, que je prends conscience de la gravité du problème. Et il se passe 4 jours, et au bout de 4 jours, je suis interpellé, donc je suis renvoyé en prison. Je suis interpellé dans une affaire criminelle pour des vols avec armes. Et je passe un an de mandat de dépôt en criminel. un an d'emprisonnement.
C'est ça, un an de prison. Pendant cette année, tu ne vas pas vraiment te redonner à Dieu, t'accrocher à Dieu. Ce n'est pas ta bouée dans cette période-là?
Alors, si, c'est ma bouée. Si, c'est ma bouée, mais c'était pour mon intérêt. C'est pour l'intérêt personnel, en fait. Ce n'est pas pour dire que je vis avec Dieu, parce que véritablement, sans lui, je ne peux rien faire. J'appelle Dieu parce que je souffre là où je suis. Et la Bible, elle le dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais la vérité, c'est que même là, en souffrant dans cette prison, parce que même si aujourd'hui la prison, c'est pas la prison d'il y a 30 ou 40 ans, c'est des tensions quand même où ça se passe bien, où on est bien loti. On n'est pas maltraité, enfin ça se passe très bien. Et ben on a quand même ce manque de notre famille, on vit enfermé sur une porte où il n'y a pas de clenche. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on souffre du manque des nôtres. Mais c'était pour mon intérêt personnel.
C'est ça, ta famille finalement te manque à ce moment-là. Et au bout de cette année, donc tu vas finalement sortir de prison. Comment tu vas mener ta vie? Parce que c'est quand même voilà. T'as connu la privation de liberté, t'es à nouveau libre. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire de ta vie à ce moment-là?
Eh ben, à partir de ce moment-là, quand je sors de prison, je suis complètement déterminé dans le sens où je ne veux plus retourner en prison. C'est-à-dire que je me mets à travailler. Je me mets à travailler, mais en travaillant, je rencontre de belles filles, je rencontre du beau monde. Je commence à rencontrer une fille qui travaille sur des plateaux de télévision, et de fille en aiguille, je retombe dans le panneau d'un autre système que je ne connaissais pas. C'était l'emprisonnement psychologique de la drogue, en fait.
Et quand on parle de drogue, on parle de cocaïne. Tu vas en prendre énormément. Tu disais jusqu'à 3 à 5 grammes par jour, donc c'est quand même des très très grosses quantités. Et là, tu vas sombrer dans une sorte de dépression, de désespoir en fait. Ça ne va pas mieux, mais ça s'empire.
Ah, ce qui va se passer véritablement, c'est que je sors de prison, je renoue une relation familiale avec ma mère, mon père, mes frères. Et à ce moment-là... Je peux vous dire que ce qui va se passer, c'est que je perds encore ma famille. Je me rééloigne de ma famille.
À cause de la drogue aussi.
À cause de la drogue, oui. À cause de la drogue, à cause des relations que je fréquente, qui sont encore des relations très toxiques pour moi. Parce que la vérité, c'est que je comprends que c'est pas ce qu'il me faut. Alors aujourd'hui, avec le recul, mais je veux que mon bonheur. Je suis égoïste à ce moment-là. En croyant que c'est un réel bonheur que je vis, en soi, c'est une porte ouverte à la perdition. Mmh. Et là, je commence à m'effronder dans la drogue. Je vous dis sincèrement, je vivais un jour sur deux drogué, quoi. Je vivais tout le temps. Et jusqu'au jour où cette drogue m'emmène dans une situation extrêmement dure. Parce que je vis, des fois, je voyais, un jour, j'ai un dealer qui me dit, avec qui j'avais beaucoup discuté de ma relation de vie, avec qui j'avais parlé de ma relation familiale que j'avais avant, et avec qui j'avais dit que je connaissais Dieu. Et il m'a dit un jour, tu sais, ta place à toi, c'est pas ici, c'est pas avec nous, c'est avec les gens qui connaissent Dieu de ta famille. Et en fait, Dieu, c'est ça. Cette personne-là. C'est cette personne-là qui m'a rappelé que Dieu existait, en fait. Et j'ai pris conscience, en fait. J'ai dit, il a peut-être raison, mais je ne suis pas venu pour ça.
C'est fou, c'est fou. Et un jour, tu vas recevoir un appel de ta tante qui t'annonce que ton père est hospitalisé, qu'il est sur le point de mourir. Et là, en fait, au lieu de te ressaisir, au contraire, ça va te faire chuter encore plus bas. Tu vas être sous une telle emprise de drogue que tu ne dors pas pendant 3 jours. Et là, les pensées suicidaires deviennent hyper oppressantes.
C'est ça, exactement. En fait, nous, on a des relations familiales qui sont très compliquées, et donc je voulais pas accepter, en fait. Je ne voulais pas avoir d'humilité et enlever cet orgueil qui détruisait ma vie. Et j'avais décidé de laisser de rester à l'écoute de mes vieux démons qui me disaient qu'il fallait que je boive de l'alcool, que je me drogue et qu'à la fin je me suicide, quoi. Et en fait, je m'approche de ce train. Je suis sur une ligne de chemin de fer, je veux me suicider. Et en m'approchant de cette ligne de chemin de fer, je suis en pleurs, je m'en souviendrai toujours. Je souffre à l'intérieur de moi. Et je me dis, comment sortir de cette situation, en fait? Comment sortir? Et en fait, à ce moment-là, mon cœur, mon âme souffre tellement. Et ben, c'est Dieu qui vient à travers tout ça pour résoudre le problème. Le Saint-Esprit me donne cette humilité de comprendre qu'il ne faut pas que je me suicide et qu'il faut que je renoue avec ma famille et que c'était lui qui allait reconstruire.
C'est fou. Donc là, tu es sur le bord des rails. La conductrice klaxonne. C'est comme là, tout à coup, tu réalises ce que tu es en train de faire et tu réalises qu'en fait, Dieu est toujours là, en fait. Et là, tu vas décider de partir, retourner voir, aller voir ton père à l'hôpital qui demande effectivement énormément d'humilité, de venir voir ta famille. Ton frère va t'accueillir à l'entrée de l'hôpital et il voit l'état dans lequel tu es, qui le choque beaucoup. Et là, tu rentres dans cette chambre d'hôpital, tu vois ton père allongé sur le lit qui est mourant. Comment ça se passe ?
Avant de rentrer dans l'hôpital, déjà dans le couloir, c'était un long couloir de 20 mètres à peu près, 20-30 mètres. Et déjà à l'intérieur de moi, il y a cette culpabilité d'avoir fait souffrir ma famille, en fait. Et quand je rentre voir mon père, je vois mon père qui est allongé et je vois qu'il ne peut pas parler. Sa seule manière de s'exprimer, c'est son regard, en fait. Et quand il me regarde et qu'il me dit, enfin, ses yeux coulent. Ses yeux coulent de larmes. Et je comprends, en fait, que mon père, il est heureux de me voir. Il était content de me voir. Il me serre la main et il me fait comprendre, en fait, qu'il m'avait pardonné, que je lui demande pardon. Je crie pardon. Je m'agenouille au pied de son lit et je lui dis, mon père, aujourd'hui, je vais reconstruire ma vie avec vous, avec Dieu. Je reconstruis tout avec vous. Et je délaisse cette vie de drogué, de tué par l'alcool, par la drogue, par l'anxiété, l'angoisse, par les démons qui sont venus me détruire. Et je veux tout reconstruire aujourd'hui. Et quand je dis ça, mon père retombe dans le coma, quelques heures après. Et quand mon père retombe dans le coma, je sors de cet hôpital et je rentre chez moi me reposer. Et quand je rentre chez moi me reposer, le lendemain, je viens à l'hôpital et je discute avec mon frère et il me dit, mon frère, je veux t'avouer quelque chose, papa a donné sa vie à Dieu. Papa, il est aujourd'hui, c'est un chrétien, il a donné sa vie à Dieu sur le lit de mort. Est-ce que je veux... Cette expérience m'a fait comprendre que ma famille priait pour moi, en fait. Ma famille priait pour moi, et en fait, j'étais emprisonné. J'étais emprisonné, et ça me rappelle des moments de la parole de Dieu où Pierre, il est emprisonné, et l'Église prie à l'extérieur de cette prison. Et quand... les chrétiens prient pour quelqu'un qui est emprisonné, que ce soit dans une prison physique ou psychologique, Dieu est capable de nous faire sortir de cette situation. Et j'ai compris à ce moment-là que mon père était sauvé et qu'il fallait que je reconstruise ma vie. Et à partir de là, mon père est parti auprès du Seigneur. Il est mort 3 jours après. Et quand il est mort, j'ai reconstruit véritablement ma famille entière. J'ai renoué avec ma mère, avec mes frères. Aujourd'hui, j'ai une relation magnifique avec mes frères. Sont tous chrétiens, la plupart sont serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, on rentre tous dans l'appel que Dieu nous a donné, car on a stoppé cette malédiction générationnelle sur la vie que nous avions avant.
Waouh, c'est magnifique, vraiment. Noël, merci beaucoup de partager cette histoire. Ça demande beaucoup de courage de raconter tout ça. Ouais. Merci pour ton humilité, merci pour ta force. Et puis, tellement reconnaissante de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Aujourd'hui, tu es mariée. T'as 3 enfants.
C'est ça.
Et puis, t'as goûté enfin au bonheur, au vrai bonheur. Et il n'y a que Jésus qui pouvait te l'offrir.
Exactement.
Vraiment,
Dieu a tout reconstruit.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Noël, d'être venu raconter ton histoire avec toute cette émotion. On sent que ça te touche encore. C'est tellement, tellement normal. Et vraiment,
fort,
merci, ouais. Seigneur, pour ce qu'il a fait dans ta vie.
Merci,
et merci
beaucoup
à toi.
Merci.
Waouh. Wow. C'est encore émouvant,
ouais,
à regarder. En tout cas, comprenez pourquoi je vous disais que ça donne de l'espoir, ce genre de témoignage. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. On n'est jamais trop perdu. Alors que le Seigneur puisse vous-même vous fortifier si vous êtes dans un combat de foi actuellement. Que ce témoignage puisse vous encourager vraiment et vous redonner espoir. Et qu'après cette émission, vous puissiez une fois de plus tomber à genoux et intercéder pour le salut de ceux que vous aimez. Parce que le Seigneur veut les sauver, veut intervenir dans leur vie comme il l'a fait dans la vie de Noël. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Merci les filles pour cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.